Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission « La vie est un roman » d'Yves Tanré. Vous l'aurez immédiatement remarqué, la voix inimitable de Yves la voix que vous entendez n'est pas celle de Yves Tanré, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay. Alors Yves, tu nous écoutes, on t'embrasse, on pense à toi et on espère te revoir très vite. Alors dans son numéro de « La vie est un roman », nous recevons Pierre Polygone et Victor Dumiau pour la création d'une nouvelle maison d'édition, 49 pages, qui propose des textes courts en librairie et sur abonnement et dont le premier ouvrage intitulé « Départ de feu » vient de paraître. Alors nous sommes aussi en présence de Sarah Bourg qui nous lira son texte et si elle veut bien répondra à quelques questions. Bonjour Pierre. Bonjour Victor, bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors Pierre Polygone, comment en vient-on à vouloir monter une maison d'édition papier en 2025?
Je pense que c'est d'abord parce que je suis lecteur et que j'adore les livres. J'ai énormément de livres chez moi. Il y a vraiment cette volonté de recréer aussi un objet physique. C'est pas que j'ai quelque chose contre le numérique, mais je crois vraiment que, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, le format numérique en littérature, en roman, n'a jamais vraiment percé. Et je pense que c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, un livre, c'est une expérience tactile, sensuelle, sensorielle. Et 49 pages, d'ailleurs, dans le titre même de la maison, c'est une mention des pages qu'on tourne, des pages qu'on lit. Et il y a l'idée de faire de beaux objets, en fait.
Des objets qu'on peut garder, éventuellement, collectionner, prêter.
Qu'on peut prêter, je ne sais pas.
Il vaut mieux les acheter.
Je crois que cette idée de la collection aussi, elle est importante, et d'où l'objet physique également. Je pense que comme n'importe quel bibliophile, il y a un plaisir d'aligner des objets qui se ressemblent, qui se répondent les uns les autres. Et c'était un peu aussi ce désir-là, de créer de beaux objets.
Est-ce que vous pouvez nous lire quelques raisons de s'abonner à 49 pages? Vous en avez écrit 49, mais vous pouvez peut-être en lire quelques-unes, celles que vous préférez.
Alors oui, alors avant de vous lire peut-être ces raisons-là, je peux peut-être vous dire pourquoi il faut le faire et directement quel est le projet. L'édition 49 pages, l'enjeu c'est publier des textes courts qui sont disponibles chaque mois sur abonnement ou en librairie. Et donc chaque mois, vous pouvez avoir le plaisir de recevoir dans votre boîte aux lettres une petite enveloppe avec un petit objet, un livre. C'est du 10x14, donc c'est vraiment un petit format. Et effectivement, j'ai voulu en fait créer des objets qui soient à la fois ludiques et exigeants. Ludiques parce que je pense que le jeu est peut-être la meilleure manière de démocratiser le plaisir de lire, et exigeant parce que je pense que c'est en réfléchissant directement sur la forme qu'on peut ramener aussi des gens peut-être vers la lecture. En fait, l'enjeu, c'est d'avoir des livres qui soient vraiment des découvertes à chaque fois, des découvertes d'écrivains, des découvertes de style. Et alors, pour vous donner un peu le ton de la maison, effectivement, je peux vous lire quelques raisons, peut-être pas les 49, mais allez-y. Vous abonner. Alors, pour découvrir qu'il existe d'autres formats que les prix Goncourt, parce qu'on prend le pari de vous faire rire ou pleurer en 20 minutes, pour soutenir la création indépendante, parce que c'est mieux de lire nos livres que vos mails, pour éviter de passer une saison en enfer, on vous propose 12 mois avec nous. Parce qu'on n'a pas besoin de papier Bible pour écrire avec gravité. Parce que ça change autant la vie qu'un abonnement à la salle de sport. Pour cesser d'être effrayé par les espaces infinis. Parce que vous avez compris la référence de la phrase précédente. Parce que vous voulez la comprendre, c'est Pascal. Pour entrer des écrivains, pour entrer des lecteurs. Parce que vous avez toujours 49 minutes à perdre ou à gagner. Parce que nos textes sont des grenades et ce ne sont pas des fruits. Parce que Tom Buron raconte la guerre comme un écrivain. Parce que personne ne vous écrit jamais de lettres. Parce que vous aimeriez tourner la page. Parce que rien ne sert de courir quand on peut lire à temps, pour apprendre à lire entre les lignes, parce que la littérature est tout, sinon elle n'est rien, parce qu'on veut brûler vite et durer longtemps, parce qu'on ne manque pas de souffle, parce qu'un texte court toujours. Et c'est même notre devise.
Bravo. Merci Pierre Polygone. Victor Dumiau, vous êtes écrivain, votre dernier ouvrage remarqué s'appelle Acide. Qu'est-ce qui vous a pris de vous joindre à Pierre dans une aventure pareille ?
C'est une bonne question, et c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Honnêtement, j'en sais rien. Non, je plaisante. En fait, avec Pierre, on se connaît depuis maintenant quelques années. On avait déjà travaillé ensemble sur un média, qu'il a fondé d'ailleurs, qui s'appelle Zone Critique. Et dans ce média, nous avions travaillé sur une collection qui s'intitulait Vrille. Alors, 49 pages n'est pas la continuation de Vrille. 49 pages est une maison indépendante qui existe de manière tout à fait autonome, mais néanmoins avec Pierre, c'est vrai que nous avions développé des habitudes de travail, un certain plaisir, je crois, Pierre, tu confirmeras, j'espère, ce plaisir, et surtout une passion, en fait. Je crois que c'est très difficile de trouver des gens qui partagent les mêmes passions, c'est-à-dire passion littéraire, des passions pour des textes parfois un peu difficiles, un peu dérangeants aussi, parce que Pierre a des obsessions très étranges, moi aussi. Donc voilà le plaisir renouvelé. De travailler avec Pierre m'a encouragé à le rejoindre sur 49 pages pour cette collection de textes courts qui s'appelle Départ de feu.
Alors on ne va pas tergiverser, hein. Le grand enjeu, vous l'avez évoqué, c'est comment résister aux écrans, aux réseaux sociaux, à la disparition annoncée de la lecture et de la littérature.
Oui, c'est vrai, et pour cela je pense qu'on peut opposer une chose très simple que Victor a mis en avant, c'est l'amitié et la communauté. En fait, tous les gens qui travaillent à 49 pages, tous les écrivains qu'on publie, je pense que ce sont aussi avant tout des amis. Alors, ça peut pas être étrange, mais c'est des gens qu'on n'a pas forcément rencontrés. Moi, ça m'arrive de lire des textes et de me sentir en communion avec des gens que je n'ai pas vus, et je pense que c'est ça que permet la littérature. Bon, il se trouve que Victor, j'ai eu la chance de le rencontrer, Sarah, j'ai eu la chance de la rencontrer, et tous les écrivains qui ont participé à Départ de feu, j'ai eu le bonheur et le privilège de les rencontrer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très très vivant, contre justement un rapport parfois virtuel qu'on peut entretenir aux choses, ou très lointain. Nous, on propose de remettre de l'affect au centre, et d'où le nom de cette collection que Victor dirige avec Pierre Chardot, Départ de feu, parce que c'est qu'est-ce qui nous enflamme, qu'est-ce qui brûle en nous, et je pense qu'en remettant de la vie, c'est là où on remet du lien, et donc c'est peut-être ça qui peut aussi créer l'étincelle pour donner envie aux gens de lire.
Sarah Bourg, votre texte Cet été-là ouvre le livre, vous pouvez nous le lire ?
Avec plaisir. Cet été, tout a brûlé. Les forêts, les garrigues, les ravins, les maisons basses, les herbes hautes, ma peau, mon père. Ce qui brûle ne s'accroche à rien. Les cendres dévalent les plis du corps et de la terre. Le vent les mène ailleurs, assez loin pour que mes yeux, à force de vouloir les retenir, se brouillent. Alors les nuages descendent, lourds et noirs. Ce qui tremble autour n'est pas la peur, c'est autre chose, un murmure, peut-être. La lumière est blanche et féroce, et ma main sur le bois par la sueur s'est ramollie. Ce qui parle en moi n'est pas moi, comment le dire encore? Ce qui parle autour a la candeur de l'aube et la colère des volcans, la fraîcheur des rivières et la gravité des montagnes. Entre mes seins, la peau est rouge, sèche, elle se décolle sans ma permission la nuit, et au matin, la chair à vif me donne des phrases dans la tête, des phrases comme des éclairs. J'arpente la lumière de flash en flash, accrochée à la foudre comme à un dernier souffle, et l'urne sur l'étagère me raconte qu'un jour je suis née et que ce jour est loin. Cet été, les cartes météo dessinent de longues plaies, et à voir comme ça, matin et soir, le sang coulé, ma salive prend le goût du fer. Quand je pleure, le ciel est bas et rouge. Tout est sec. Le monde craque comme un cadavre. Au sortir du crématorium, j'ai cru entrer dans le ventre d'un dragon. Ma peau, dans la chaleur, s'est déchirée. La ville respire une odeur de papier brûlé. Une cérémonie parallèle se tient, le vent chante et s'incline. Le monde entier prie à ma place. Sur le parking, le goudron, boursouflé, éclate en cloques. Un pu noir et épais s'en échappe. Je me demande si un jour, ces longues coulées de nuit pourront m'avaler. Le jour où j'ai porté une première poignée de cendres à la montagne, le ciel était laiteux. Étrangement docile malgré la brume. J'ai marché comme on marche à travers la fatigue, sans idée et sans voix. Il faut longtemps laisser couler la sueur par les yeux, les larmes par la bouche, pour qu'au centre du ciel craque une lumière nouvelle. J'ai laissé le vent travailler. Les cendres ont pris la pente comme l'eau vive. Elles ont dévalé les roches à mesure que l'horizon s'éclaircissait. Au loin, des grandes flammes léchaient le ciel et dans ma gorge, les mots ont commencé à trouver le chemin. Arrimé à la nuit, il me faudra vider le ventre de sa syntaxe, inventer des images, il faudra écrire. Cet été, la langue de mon père a brûlé, ma peau et le monde avec. J'ai récupéré sa voix comme on récupère le cardigan d'un mort, au cas où l'hiver serait rude et que je ne me suffirais plus. À mesure des incendies, j'ai découvert une tessiture nouvelle, plus grave. La fièvre, diront les médecins. Ils disent cela avec un tel aplomb que je ne les crois pas. Il faudra écrire, remettre en ordre le silence et le cri. Cet été tout a brûlé, les forêts, les garrigues, les ravins, les maisons basses, les herbes hautes, ma peau, mon père, et ce qui brûle ne s'accroche à rien. Les cendres dévalent les longues pentes du corps, s'immiscent dans les plis des langues et des voix. De là où je suis, j'entends encore chanter le feu, à ras des eaux du père. Sous mes ongles, les cendres et les mots, de quoi passer la nuit. Dans ma voix, les alcôves noires des églises, l'écho des grottes, le vertige des montagnes. Il faudra écrire, avant que l'air ne manque tout à fait.
Merci Sarah Bourg.
Bravo, c'est franchement...
Quelle voix.
Je suis tellement content de commencer l'entrée en littérature de 49 pages avec ce texte. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais je le redis. Je suis d'autant plus honnête que j'ai quasiment rien retouché au texte. Et je trouve vraiment mais vertigineux, impressionnant, incandescent. Enfin, en plus, c'est un texte qui est très programmatique, en fait. Et je trouve ça très beau. Enfin, tu parles d'un moment qui est tellement intense. Et puis voilà, départ de feu, là, c'est peut-être le départ de feu le plus violent et bouleversant qui soit. Quoi. Donc, merci encore.
Merci à vous.
Alors, Sarah Bourg, vous êtes écrivaine, hein, vous avez sorti récemment Chambre 908 au Castor Astral. Alors, vous aussi, vous refusez ce constat défaitiste, hein, que les jeunes ne lisent plus, que les séries télévisées les séries sur le net ont remplacé les romans ou...
Oui, oui, j'espère. Et je pense qu'en effet, c'est important de travailler la forme. Et je crois beaucoup aussi aux formes courtes. Je pense que vraiment, il y a une possibilité de gagner en densité, de condenser peut-être des choses, de rendre les choses plus incandescentes, plus à vif. Et je pense que ça, en effet, ça peut retenir l'attention, parce que c'est bien un problème d'attention, je crois, ce dont on parle avant tout. Et donc ça peut faire émerger des émotions très vives, très fortes. Et le texte court pour ça est un très bon moyen, je pense, de condensation.
Et en tant qu'écrivain, est-ce que cette contrainte, c'est quelque chose qui limite ou c'est quelque chose qui stimule ?
Alors moi, je viens beaucoup de la poésie, donc c'est vrai que j'ai un affect assez fort pour ce qui est de l'ordre de la fulgurance, pour ce qui est de l'ordre de l'intuition dans le texte. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à condenser et à écrire des formes courtes, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la musicalité aussi qu'on peut aller chercher. Quand on travaille un roman, c'est un autre travail. C'est tout un travail dramaturgique qui est plus de longue haleine. Enfin, c'est autre chose qui est tout aussi passionnant. Mais c'est vrai que la forme courte permet... un départ de feu, justement. Et ça, c'est vraiment chouette.
Alors, départ de feu, donc, ce sont 14 textes, 14 auteurs contemporains, plutôt jeunes, hein, on peut le dire, qui parlent de l'origine de leur écriture, de ce moment indécidable où tout se joue, je cite Pierre Polygone, quand l'existence devient épreuve, quand elle trace des lignes de fuite et invente de nouveaux points d'ancrage, autant de foyers où naissent de nouveaux imaginaires. Victor, vous avez signé dans cet ouvrage « Érection du corps du Christ », où l'auteur, ou du moins son personnage, entretient un rapport contrarié et ambivalent avec le Christ.
Alors c'est « Érection du corps sur la croix ».
Ah pardon.
C'est à peu près la même chose, parce que ça parle en effet un peu du Christ.
D'accord.
Et votre question, du coup, j'ai...
Donc ce texte parle d'un rapport, l'auteur entretient un rapport contrarié et ambivalent avec le Christ.
Oui, complètement. Alors personnellement, j'ai un rapport très contrarié avec le Christ, avec la religion de manière générale, puisque j'ai grandi dans une famille où la religion n'existait pas et où c'était un gros mot de croire en quelque chose. En fait, il fallait ne pas croire, il fallait considérer que l'existence était une espèce de suite d'épreuves, de hasards et puis de coups de chance, et que du coup on pouvait tout se permettre à peu près. Donc évidemment, moi, face au Christ, je me sentais un petit peu, j'étais un peu rieur, je me disais puis j'étais, quand je voyais des gens s'incliner devant la croix, je me disais mais ils sont bêtes, enfin pourquoi est-ce qu'ils considèrent encore qu'il y a quelque chose au-dessus alors que ça se voit bien qu'on meurt et puis il ne se passe plus rien, et si en effet il y avait un quelconque sens moral, une certaine transcendance, et ben le monde ne serait pas aussi pourri qu'il ne l'est. Bon, le monde n'est pas si pourri, hein, bien sûr, je sais, mais c'était des pensées d'enfant, disons. Il se trouve que ce texte est un peu bizarre. C'est un texte que j'ai soustrait à un manuscrit, un de mes premiers manuscrits, un texte que j'ai écrit dans une sorte d'état de fureur, de colère. Je voulais faire du mal à ma famille. Parce que j'étais un peu frustré, perdu, et j'ai voulu faire du mal à des gens très proches, y compris à une fille avec qui je partageais ma vie, depuis une dizaine d'années déjà. Et ce texte racontait l'histoire d'un personnage en déroute, en fait, qui rentrait un peu chez lui dans le nord de la France et qui venait revisiter tous les lieux de son enfance, et notamment cette espèce de calvaire, ce martyr, cette espèce de grande croix en pierre qui est installée à l'arrière du village, à Avrincourt, dans le nord de la France, pas loin de Cambrai. Et j'ai voulu, en fait, soustraire ce texte et raconter, au fond, comment est-ce que ce texte avait pu provoquer une rupture. Parce que c'est de ça dont il a été question, c'est-à-dire que ce texte a provoqué un tel désespoir chez les gens qui l'ont lu, chez ma mère, chez cette fille, que j'ai voulu leur montrer que j'avais eu tort. Je m'étais trompé, en fait, on ne se venge pas par la littérature. Bon, ça peut être tentant, et j'ai souvent cette tentation, en fait, de faire du mal hein, par les mots. Sans doute parce que c'est le seul moyen que j'ai, moi, ma seule force, ma seule puissance, c'est de combattre par les mots, c'est là où je me sens chez moi, avec mes muscles, disons. Mais j'ai voulu leur montrer que j'avais eu tort et qu'en fait, cette espèce d'arrogance, cette espèce de sarcasme, cette ironie, ce cynisme qui m'a été inoculé par ma famille, je crois qu'il est cancérigène, il est malade. Et je voulais leur montrer par ce texte, qui est en effet un texte sur le Christ, mais qui est un texte à double lecture, que j'avais eu tort et qu'en fait, j'aurais dû les aimer, j'aurais dû croire, peut-être, que ce que représentait le Christ, c'était pas si bête que ça.
Oui, quand je disais ambivalent, on sent bien qu'il y a une répulsion, une attirance. Parce que cracher à la face de Dieu, c'est encore lui accorder de l'existence ou de l'importance.
Bien sûr, oui, c'est une réflexion tout à fait bataillane aussi. Enfin, c'est toute l'œuvre de Bataille est tournée, écrite autour de cette ambivalence. Oui.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, en présence de Victor Dumiau, Pierre Polygone et Sarah Bourg, pour le lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle 49 pages. Il faut le rappeler, c'est une maison indépendante. Hein. Donc qui ne dépend pas de milliardaires ou de personnes affiliées à certains trusts ou à certains pouvoirs économiques. Est-ce que l'écriture doit toujours se mesurer aux écritures ? Je sais pas, c'est par rapport à vous, Victor, qui avez écrit sur le Christ, ou je pense aussi à Pierre aussi, qui cet été a lu le Premier Testament.
J'ai lu même, ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais c'est ce que j'ai fait une grande partie de l'été. J'ai relu, voilà, c'est difficile de savoir ce qu'on fait exactement quand on lit la Bible. J'ai lu, j'ai relu la Bible quasiment intégralement, mais parce que je trouve ça amusant de lire un texte aussi énorme quand on publie des textes aussi courts.
Oui, c'est 2000 pages quand même.
L'édition que j'avais même dépassait les 3500. Mais surtout, la Bible, il faut le préciser d'emblée, c'est une bibliothèque. Ta biblia, c'est un pluriel, c'est les livres. Il y a 60... Alors, ça dépend, je ne vais pas faire un cours assez pénible terminatique, mais donc que selon les traditions dans lesquelles on se situe, la Bible catholique, elle fait 73 livres. Donc en fait, il y a plein d'histoires, et c'est un réservoir d'images et d'histoires.
C'est plein d'auteurs différents.
Et c'est plein d'auteurs différents qui sont souvent anonymes, très anciens. On estime que les premiers textes datent peu ou prou du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a vraiment quelque chose d'immémorial. Et puis en même temps, moi, ce qui me fascine avec la Bible, c'est qu'il y a une actualité aussi brûlante hein, dans les récits qui sont faits. C'est l'histoire de meurtre, de vengeance, c'est l'histoire d'amour, de poésie. Et surtout, c'est l'histoire de prophètes, de gens qui sont dépassés par une parole. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont littéralement pris par une parole qui est supérieure à eux et qui luttent avec cette parole. Et pour moi, la figure du prophète, en fait, elle rejoint beaucoup celle de l'écrivain. Et c'est pour ça que le texte de Victor, je le trouve assez fort et assez beau, parce que, en fait, et vous l'avez souligné, c'est pas un blasphème, en fait. Il y a une forme d'hommage aussi, ou essayer de décortiquer justement qu'est-ce que nous signale le Christ, quelle est cette figure, ce modèle, ce contre-modèle, comme ça, qui se présente à nous, et surtout qu'est-ce que l'écriture a à voir avec une forme de transcendance. Comment est-ce que justement l'écriture, elle vient nous pousser, nous interroger sur des choses qui sont sensibles, qui sont profondes, qui sont denses, qui sont intenses. Et c'est pour ça que je pense que oui, dans la quête, en tout cas littéraire, il se passe toujours quelque chose qui dépasse le simple écrivain.
Donc la figure du Christ, la figure de la Bible, ça a à voir effectivement, vous l'avez dit, avec une forme de transcendance, mais peut-être aussi à autre chose. Sarah, est-ce que la création littéraire, elle a nécessairement à voir avec, si ce n'est avec la mort, en tout cas la disparition de soi, des autres ?
Je pense, oui, qu'il y a une histoire de disparition. Bah, quand c'est créer des voix d'écrire, et c'est laisser place aussi. Et je pense que Je ne saurais pas bien comment le dire, mais oui, je pense qu'il y a affaire à la disparition, ouais. De soi, oui, d'une partie de soi, pour laisser émerger autre chose, une autre voie. Et alors des autres, ça dépend dans quelle mesure on voit ça, mais aussi...
Bah, ouais. S'adresser par exemple à des gens disparus.
Oui, bah, je crois que c'est, l'écriture, c'est une manière de faire un lien, et de faire un lien avec ce qu'on ne voit pas aussi. C'est une manière de faire advenir tout ce qui n'est pas forcément visible, et ça permet de parler à des gens qui ne sont plus là, ouais, je pense.
On va marquer une première pause musicale avec un morceau de Odezen qui s'intitule « Et Dieu était grand ».
J'étais chiante, j'étais dedans, t'étais bien. Bas du ventre, j'étais chien. Dans la pente, je suis rien. Dans mon rêve, trop de salive. Et on crève les ballons. On regarde la vie à deux, digérer des bourdons. Et ils font grave la gueule, mais qu'on leur chie ce qu'ils veulent. Et quand je les regarde dehors, dealer des kilos de peur. Faut pas se donner tant de mal pour faire mentir un père. Et si je te crache par terre, c'est que je l'ai pas vu moi lors du ciel. Toi t'es comme un con sans aile, moi je me fie à du réel. Si j'ai pas le droit de meurtre, tant mieux pour ce décor. J'évacue des porcs, des trucs vécus dans le corps. Le calice et le sang noir, je préfère quand je le dégueule. Donc si je change de bar, c'est que je veux pas boire ta gueule, dégage de mon sol, meurs avec tes trolls, merde je mors avec les crolls, c'est du vomi ma gueule, je suis une brebis qui belle, mon teint violet quand je meurs, on m'offre enfin des fleurs. Ciel bleu de mes ennuis, le soleil rouge et la envie. Au nom du père, jure sur ma mère que c'est la dernière heure de misère en hologramme. Je fixe le néant, brûlons un gramme, baisons ensemble. Les grandes questions existentielles, je m'en bats les steaks, j'aime le mortel. La quête du Graal au coin de la tête, des plans minables sur la comète, des belles gazelles en mini-jupe. L'air de travers, en micro-pute. Je pense tout haut, ce que je dis tout bas. Garde le bon sens jusqu'au panneau. Je vois tout droit, c'est le tombeau de la naissance. Vers l'asticot, dans la vision. Un grain de sable. Les illusions sont impalpables. Je lis mon destin entre les lignes. J'aime les couleurs, je les patine. Je suis pas paré pour l'extinction. Accaparé dans le verre du son. Un bout de fusée au cul du joint. Pas tatoué, vierge de dessin.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Pierre Polygone, de Sarah Bourg et de Victor Dumiot pour la sortie de Départ de Feu, le premier ouvrage d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle 49 pages. Victor Dumiot, pourquoi avoir choisi ce morceau ?
D'abord parce que Dieu était grand et ensuite non, surtout parce que j'adore Odezen en fait. Je les ai vus très récemment en concert, c'est ce que je disais tout à l'heure, au Bataclan. Je vais les voir de manière religieuse à chaque fois qu'ils font une tournée, en tout cas j'essaie. Je les écoute depuis que j'ai à peu près 10 ans et je trouve que c'est un groupe très étrange en fait dans le paysage musical français. Parce que c'est un groupe qui a sans cesse muté musicalement, qui se situe dans une espèce d'interstice qui s'inspire du rap, de l'électronique, de la chanson française aussi, et qui réunit en fait le meilleur de tous ces genres pour produire des espèces de tubes sur lesquels on peut danser, mais sur lesquels aussi on peut pleurer, on peut faire l'amour aussi sur Odezen. Vraiment, c'est un groupe que j'adore. Et puis Dieu était grand, c'est une chanson qui parle justement de ce espèce de sentiment de... Bah, pas forcément de désespoir, mais en fait de renoncement, une forme de transcendance. Et du coup, allons-y, Dieu était grand, mais maintenant on va vivre.
On se plaint parfois que les jeunes soient détournés de la littérature ou de la poésie, mais est-ce qu'on ne peut pas se demander s'ils n'ont pas trouvé leur compte dans le rap, qui est incroyablement créatif et où le travail sur la langue est assez considérable ? Qui veut répondre ?
Je suis vraiment loin d'être un expert, donc je vais faire vraiment une réponse de néophyte. Victor pourra la compléter sûrement.
C'est une question intéressante, en fait, cette question-là, parce qu'elle pose la question de savoir, de la langue directement. Il y a un vieux débat sur le rapport entre musicalité et littérature, hein, qui a été réactivé, et chaque année, enfin, tous les 5-6 ans, on y a droit. Par exemple, Bob Dylan, qui reçoit le prix Nobel de littérature, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le rap, c'est de la poésie? Il y a toujours les mêmes qui vont sortir, bah oui, en fait, au départ, Poyane, hein, c'est la création, la poésie antique était chantée, était lyrique, hein. On pense à la lyre d'Orphée, on pense à Homère, et on pense ensuite à Booba, peut-être. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est intéressante ou importante à noter, c'est que ce qui est fort ou ce qui est beau, je trouve, dans cette question-là, c'est que, en fait, la langue n'a pas dit son dernier mot. Quelles que soient les questions de catégorisation, ben, en fait, l'attrait pour le rap, il est aussi lié à la langue, il est aussi lié, voilà, à une forme de recherche, hein, formelle, stylistique, et même si on n'a pas les mots pour le dire, même si on n'a pas les codes savants de l'université pour décrypter les figures de style, en fait, peu importe, c'est que ça résonne en nous.
Voilà. Sarah, donc, vous êtes poète, écrivaine. Je crois que vous écoutez du rap.
Un peu. Un peu.
Un peu. alors, en tout cas, est-ce que ça vous a. Il y a des morceaux de rap ou des créations hip-hop qui vous ont touché ou pas, ou qui ont pu vous interroger dans votre travail d'écriture? Ou pas du tout, hein. Et
alors,
puis voilà, je passe à Victor.
Je pense que Victor sera beaucoup mieux placé pour répondre. Moi, la musique, en règle générale, m'aide beaucoup dans l'écriture et m'inspire. Alors, rap ou même chanson française, mm-hmm. ou même, on parlait de Bob Dylan, pareil. Enfin, je pense que la langue s'y retrouve aussi. ODZN, j'aime beaucoup aussi. Donc, je ne sais pas si ça m'inspire directement, mais en tout cas, ça peut me procurer la même émotion que la lecture, parfois, d'un poème ou d'un texte.
Victor, alors.
Oui, bah,
l'importance du rap par rapport
à l'écriture, ouais. De manière générale. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'en effet, le rap, c'est la langue de l'époque. Et c'est peut-être pour ça que les jeunes écoutent du rap. C'est parce que, en fait, c'est l'art qui, aujourd'hui, dit le mieux notre époque, par un langage qui est sans cesse en mutation, en évolution, qui est bourré de références qui sont celles des réseaux sociaux, des séries, du divertissement, etc. Mais aussi des références politiques. Enfin, je pense que le rap, c'est aussi une grille de lecture, en fait, du monde, des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports économiques aussi entre les gens. Donc, c'est un art qui est extrêmement actuel et qui, du coup, nous parle au cœur. Après, c'est aussi un art qui est léger. C'est-à-dire que c'est avant tout un art pour danser, pour avoir une impression de puissance. Enfin, moi, je me souviens quand j'écoutais du rap, quand j'avais 14-15 ans, enfin, j'écoutais Booba et je me disais, bon, voilà, ça y est, je me sentais fort. Alors, évidemment, je ne l'étais pas du tout, mais il y a aussi ce truc-là. Et je sais que, par exemple, quand j'écris, j'ai besoin de prendre des moments de... Alors, soit j'écoute du rock et je me déplace dans ma chambre, dans mon bureau, et je tape contre les murs, soit j'écoute du rap et il y a quelque chose, en fait, très cathartique. Et c'est ce que je trouve assez beau, assez pur, en fait, dans le rap, cette dimension cathartique, et ça se ressent vraiment sur scène, en fait, où les concerts de rock ont été remplacés par des concerts de rap, et il faut voir les pogos, en fait, l'énergie qu'il y a aujourd'hui sur scène dans un concert de rap, elle est complètement démentielle, c'est-à-dire qu'on vient, exprimer une forme de violence, on vient exprimer une forme de protestation aussi, contester un ordre du monde, alors même que le rap... finalement, ça, son rapport au monde et au système, entre guillemets, est assez ambigu.
Il y a assez peu de rappeurs anticapitalistes. Ils s'arrangent très bien des droits d'auteur, des suites privées, des limousines et des jets.
Oui, bien sûr, mais on pourrait dire que ces rappeurs-là, en étant capitalistes, sont aussi anticapitalistes parce qu'au fond, ils sont le produit d'un système capitaliste qui les a opprimés. Donc je crois que c'est toujours l'ambivalence d'un rapport de répulsion et d'attraction. Et en effet, ils ne contestent pas nécessairement un ordre du monde, mais quand même, je suis certain qu'on retrouve.
Et puis, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a aussi cette question que le rap conscient, le rap engagé, finalement, c'est une parole qui serait instrumentalisée, qui résonne moins, alors que le rap, quand il est chambre d'écho, c'est peut-être là où devient précisément le plus intéressant. Moi, j'aime bien cette étymologie, peut-être fantaisiste, hein, qu'on considère parfois que le rap, c'est l'acronyme de Rhythm and Poetry. Je pense que là, c'est une manière de répondre à la question. Oui, il y a cette question de la langue, cette question du rythme. Mais ensuite, je me demande, enfin, j'avais lu deux, trois trucs dernièrement là-dessus, sur une forme de, pas de déclin, mais de mutation hein, du rap, en tout cas, qui se fait justement, on va dire, torpiller, pénétrer par plein d'autres influences. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'on vient à une époque d'hybridation et le rap lui-même est une. Enfin, voilà.
Maintenant ils ont les cheveux longs, ils chantent. Donc c'est une hérésie pour les anciens rappeurs. C'est une hérésie. Il y avait le crâne rasé qui rappait. Il était interdit de chanter des refrains.
À l'école du micro d'argent. Ouais,
voilà.
Donc, c'est la fin du disque aussi. Enfin, on le voit bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique s'écoute principalement sur des plateformes, Deezer, Spotify, etc. Et du coup, en fait, les morceaux qui sont valorisés sont généralement des morceaux très court et on n'écoute plus d'albums en fait, plus personne n'écoute d'albums en entier du début à la fin, donc aujourd'hui le rap souffre aussi de ça, c'est-à-dire construire un projet artistique de part en part, c'est devenu très compliqué.
Allegre FM 93.1.
Mais 49 pages, c'est un peu ça aussi, de dire, bah, tiens, plus personne ne lit de gros romans, mais par contre ils sont peut-être disposés à lire un texte court qui peut être compris en 20 minutes.
Je pense qu'il y a de ça, alors compris en 20 minutes, je
ne sais pas. Un format pop, en fait. Un format
oui,
pop.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que le pari, c'est brûler vite, durer longtemps. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des textes qui peuvent se lire relativement rapidement, mais qui laissent une trace qui est durable. Et après, l'autre enjeu aussi, je pense que c'est l'idée de dire que la littérature n'est pas intimidante. Je pense qu'il y a quelque chose, et ce qui est toujours touchant, hein, de voir à quel point il y a une sorte de sacralisation de la littérature. Et on peut le voir même parce que, par exemple, ben, voilà, pour un influenceur, pour une influenceuse, il y a ce moment de la publication du livre qui est important. Donc il y a une force symbolique du livre qui est encore très forte.
Surtout en France.
Et je pense que l'idée de 49 pages, c'est déjà de faire des petits livres. Ça, je trouve ça intéressant. C'est discret, ça ne s'impose pas, c'est pas violent. Mais en revanche, une fois qu'on les ouvre, et ben là, ils posent pas quelque chose. Et surtout, c'est une porte d'entrée. Moi, je les vois aussi comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aime ces textes-là, ben voilà, là, vous avez entendu La langue de Sarah Bourg, mais c'est une invitation à lire les romans, à lire les poèmes de Sarah.
908, 908, Castor.
Exactement. Et y a ça aussi. Il y a cette idée de dire, ben, en fait, si ce texte-là vous a plu, si ce format-là vous a plu, mais allez découvrir les œuvres, enfin d'autres œuvres aussi. Hein. Il y a 49 pages, c'est une promesse que je me fais presque de ne pas éditer de romans, parce qu'il y a plein d'espace pour publier des romans, de grands romans, etc. En revanche, accueillir des formes hybrides, là oui, là on trouve, enfin là à mon sens, c'est quelque chose qui est intéressant.
C'est comme on en parlait à l'instant avec le rap et avec ce que vous dites à l'instant, c'est qu'il y a une volonté de sortir un peu aussi des catégories, de sortir des classements et des genres, et de rentrer dans l'hétérogène et d'avoir encore une plus grande liberté.
Mais oui, tout à fait. Par exemple, on dit texte court. D'ailleurs, c'est Victor qui a trouvé cette devise fantastique, parce qu'un texte court toujours. Au départ, j'avais proposé la suivante. J'avais dit, vous aurez toujours le temps pour une bonne nouvelle. Je trouve ça un peu drôle. Mais le problème, c'est le mot nouvelle. En fait, le mot nouvelle, je le trouve assez daté. Alors, c'est-à-dire que finalement, quand on pense nouvelle, on pense chute, on pense Maupassant. Et j'adore Maupassant. C'est franchement un de mes écrivains préférés. Lisez Maupassant, c'est formidable. Mais indépendamment de ça, j'ai l'impression que ça nous enferme. Le mot nouvelle, paradoxalement, peut nous enfermer. Alors que texte court, eh bien en fait, ça veut tout, rien dire. Le texte est défini uniquement par son format de 30 à 40 000 signes. Et c'est ça qui est assez fort.
Alors vous avez demandé à vos auteurs et aux autrices de parler de leur moment d'épiphanie, de révélation, ou en tout cas de vocation. Est-ce que vous pensez vraiment que tout se joue en un seul instant ? Est-ce qu'il n'y a pas des chemins plus tortueux, plus mystérieux, plus longs, moins spectaculaires, moins extatiques dans la découverte de l'écriture ?
Oui, alors en fait, ce qu'on a demandé à nos auteurs et autrices, c'était de nous raconter un moment où leur vie a basculé. Que ce moment soit lié ou pas, et ils sont toujours liés, puisque nous sommes écrivains, à la littérature, mais pas forcément directement, immédiatement. Mais donc voilà, en fait, la collection Départ de Feu, en fait, elle s'intéresse à ce moment de bascule. Pas forcément un moment de littérature, en fait, mais c'est un moment qui fera littérature ensuite. Par exemple, ton texte, Sarah, n'est pas intrinsèquement lié à la création littéraire, même si, évidemment, la fin...
Il faudra écrire. Voilà, c'est ça, et l'autre point qui est très intéressant pour répondre plus directement à ta question, c'est que, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se dit raconter un moment où la vie bascule. Mais en fait, le point de bascule, on le choisit toujours a posteriori. Alors évidemment, y a des moments qui font date d'emblée pour nous dans nos vies, on le sait. Mais en revanche, très souvent, c'est après coup qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'était ce moment-là où tout a basculé ». Par exemple, quand on demande à quelqu'un de choisir un point de bascule, ben, moi, je pourrais en citer, mais plein. On pourrait dire qu'un point de bascule, c'est le moment où j'ai appris à lire, par exemple. Bon, bah, je ne sais pas s'il y a un moment précis, mais en tout cas, ça a changé ma vie. Et c'est ça qui est fort, c'est que, en fait, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui reprenons, en fait, paradoxalement, le pouvoir au moment où on choisit le moment où ça a basculé. Et c'est pour ça que ce que j'aime bien dans cette ligne-là, c'est qu'elle est à la fois, elle est accueillante, en fait. À la fois, ça précise, ça définit un sujet, et en même temps, ça peut ouvrir aussi à beaucoup, beaucoup d'expériences.
Sarah Bourg, pour continuer dans ce que disait Victor, vous, votre révélation de l'écriture, de cette vocation d'écrivaine, c'est arrivé soudainement ou ça a été un long chemin ?
C'était très jeune et j'ai pas de souvenir d'un avant et d'un après. Je crois que j'ai vraiment été baignée dedans enfant. J'ai eu cette chance-là et ça m'a un peu toujours accompagnée et ça n'a fait que s'intensifier. Mais j'ai pas de souvenir d'un réel basculement. Mais après, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur les points de bascule, c'est vrai que tous les moments de bascule dans ma vie, en fait, ont été coulés dans l'écriture, parce que vu que l'écriture m'accompagne et que j'écris, enfin, n'importe quel moment de bascule, en fait, change quelque chose peut-être dans mon écriture ou dans ma manière d'appréhender le texte suivant ou dans la voix que je vais essayer de mettre en écriture. Donc, y a plein de moments de bascule, mais l'écriture a toujours été plus ou moins là, en fait.
Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper ni maîtriser ?
Je crois pas qu'on puisse ni l'anticiper ni la maîtriser. Ouais. Tant mieux.
Alors, comment on fait tenir, Pierre, parce que vous êtes l'éditeur, dans le même ouvrage, deux textes. Un qui s'appelle « Érection du corps sur la croix », et puis qui se veut blasphématoire, et « Un feu nouveau » de Guillaume Cyr qui parle de reconversion spirituelle. Comment on fait tenir ça ?
Bah, c'est très simple. D'ailleurs, il se trouve que Guillaume a adoré le texte de Victor et réciproquement, parce qu'il parle du même élan, du même esprit, du même feu. D'ailleurs, la question du feu et de la religion, elle est liée, hein, et Guillaume en parle dans son texte Un feu nouveau, puisqu'il parle de la Pentecôte, hein, c'est ce moment en fait, donc on est juste après la mort du Christ, les disciples sont un peu désemparés, et puis il y a une sorte, ils se rassemblent entre eux, et puis d'un coup il y a une forme de flamme comme ça qui se manifeste au-dessus de leur tête, et ils ont le pouvoir, hein, de pouvoir parler toutes les langues, d'avoir enfin cette forme de rhétorique ou de clarté dans l'expression, et donc ils vont répandre le récit. Donc je trouve ça intéressant, cette question de la Pentecôte et du feu nouveau, là encore, hein, on touche quelque chose qui est très littéraire. Mais en fait, et sinon, bon, ils auraient pu ne pas s'entendre, et ça aurait été tant mieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que le but pour moi, c'est pas de faire école, c'est pas justement de dire, bah voilà, on va lisser, on va unifier tous ces écrivains sous une même bannière. Au contraire, c'est de faire s'entrechoquer des langues, des discours. Dans le départ de feu, il y a un texte d'Olivier Liron, et la première phrase d'Olivier Liron, c'est « Je hais les départs de feu, les pyromanes », c'est un texte assez drôle.
Alors, de ce texte, c'est fabuleux, parce qu'il prend le contre-pied total de ce que vous aviez demandé.
Ah ouais.
Et puis...
Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a des auteurs qui ont répondu de manière très, très littérale, ouais. Et d'autres, au contraire, qui ont joué avec les codes. On a des textes qui s'apparentent davantage à de la poésie, d'autres qui prennent vraiment la forme de récits, d'autres qui sont bien plus romanesques. Et en fait, c'est pour ça que je suis très heureux, parce que ce volume, en fait, correspond vraiment voilà, à ce qu'on veut défendre, à ce qu'on veut promouvoir, à savoir une forme de liberté ton. Mais surtout, moi, ce que j'ai aimé, et vraiment, je tiens à le dire, c'est que les auteurs, entre eux, on se connaissent, on peut échanger, se sont rencontrés, et il y a des liens très étonnant, très étrange, que j'aurais même pas pu anticiper, pu prévoir, qui se sont créés et forgés entre ces auteurs-là. Et c'est ça, et c'est là, je trouve, que le résultat est le plus intéressant.
Il y a aussi le moment Orca de John Jefferson Selve, qui parle d'une nouvelle trinité, le théâtre de la cruauté, la pornographie et l'alcool. Quelque part entre le Duende, le Kairos et le Reka. Est-ce que la littérature que vous aimez, que vous avez envie de défendre, a à voir avec l'excès, voire la violence ?
Pas forcément, pas nécessairement, même si je pense que moi j'ai une forme de tendresse pour la radicalité, ou du moins pour l'absolu, je pourrais dire, puisque les textes qui m'ont le plus touché, ce sont des textes qui ont à voir avec l'absolu. Alors évidemment, et en plus, l'absolu est souvent marginal, et moi ça rejoint aussi une forme de passion que j'ai pour les marges, donc là-dessus c'est clair. Ensuite, la violence pour la violence, non, mais ce dont parle John Jefferson Selve, c'est en fait ces moments de révélation ou d'épiphanie quand on prend conscience, enfant ou même adolescent, ben justement du déchirement du monde, enfin de ce moment où le monde se présente à nous dans toute son horreur, mais aussi par exemple toute sa vérité. Par exemple, et John Jefferson raconte voilà, des scènes qui l'ont marqué enfant. Ça peut être un film, ça peut être justement un lendemain de soirée avec la première expérience de l'alcool. Et l'alcool et l'ivresse a aussi à voir peut-être avec la littérature. En fait, moi je ne jouerai pas, on va dire, Dionysos contre Apollon. Mon but, très très humblement, ce serait d'accueillir les deux, hein, une vision à la fois voilà, apollinienne et dionysiaque de la littérature, quoi.
On va marquer une seconde pause musicale avec un morceau d'Hubert Félix Thiéphaine qui s'appelle « Les dingues et les paumés ». Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Pierre Polygone, Sarah Bourg et Victor Dumiot pour la sortie de Départ de Feu, le premier ouvrage d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle 49 pages. On vient d'écouter Hubert Félix Thiéphaine, Les dingues et les paumés. Victor, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Pierre.
Pardon, Pierre.
Non, aucun problème. Non, alors, en fait, il se trouve que j'ai une passion depuis quelques années pour Thiéphaine, et notamment Les dingues et les paumés. Je trouve que le contexte déjà de cette chanson est dingue, puisque en fait, il est question voilà, d'une bande de marginaux qui prennent de la drogue et qui déambulent dans la ville, et en fait, qui ont des visions. Et d'un coup, le statut de ces visions est interrogé. Est-ce qu'ils sont en train de voir Dieu? Est-ce que là, ils touchent la vérité? Ou au contraire, est-ce qu'ils ne sont pas plus bas que terre et en train d'errer alors que leur cerveau part en direction? Et ce que j'adore dans cette chanson-là en particulier, c'est qu'elle montre que, en fait, entre le ciel et la boue, enfin, le ciel et la boue, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est une question de point de vue, de perspective. Il y a des passages qui sont très, très lyriques et en même temps des passages qui parlent d'une déchéance absolue. Et il y a une forme d'attention chez Thiéphaine qu'on retrouve chez Baudelaire, hein, toute proportion gardée, mais pour justement les marginaux, pour les laisser pour compte. Et il ne s'agit pas de faire la morale, de dire la drogue c'est mal, il s'agit au contraire de porter un regard, enfin de porter une attention en fait très particulière, de mettre en lumière ces situations-là. Et puis bon, après, d'un point de vue rythmique et mélodique, moi je trouve ça impressionnant, quoi.
Victor, pour revenir à la question qu'on se posait avant l'écoute du morceau Thiéphaine, quel est votre rapport dans votre écriture avec l'excès et la violence? Vous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus?
Je n'ai aucun rapport avec l'excès et la violence. Je n'aime pas ça, je condamne. Non, l'excès, c'est très difficile à définir, l'excès, mais je me sens souvent excessif. Dans mes points de vue, dans mes visions, les visions qui s'emparent de moi, dans ma façon de vivre aussi parfois. J'ai vécu et grandi avec des gens qui étaient aussi très excessifs, je pense que c'est à cause de ça que je le suis. Moi, l'excès, encore une fois, c'est toujours très ambivalent, c'est-à-dire que je vois aussi le mal qu'il peut faire, c'est-à-dire que l'excès nous détruit et détruit les autres. Et en même temps, on parlait de point de bascule tout à l'heure, en fait, c'est dans l'excès aussi qu'on se découvre. C'est souvent en se mettant en péril, c'est souvent en allant chercher des expériences extrêmes, qui sont violentes ou pas, mais qui le sont souvent pour nous, parce qu'elles sont radicales, parce qu'elles vont déclencher ou aller chercher des points de rupture, que l'on découvre quelque chose qui était perdu. Et on parlait tout à l'heure de la disparition. Moi, je crois qu'au fond, écrire, c'est aussi aller chercher ce qui est perdu en nous, ce qu'on ne connaît pas. C'est pas juste se découvrir soi-même, mais cette espèce d'impression qu'il y a une part manquante à laquelle nous n'avons pas accès. Et je crois que c'est par l'excès et par la violence, une certaine violence, toute proportion gardée évidemment, que l'on peut la découvrir, en tout cas aller chercher des phénomènes extrêmes.
Sarah, vous en pensez quoi de...
Oui, je suis assez d'accord. J'ai une sorte... Enfin, pour moi, la littérature a toujours rejoint mon amour un peu pour l'absolu. Donc, c'est vrai que j'ai toujours... J'ai toujours vu une forme de radicalité, de quelque chose de très tranchant, de quelque chose qui va vite, de quelque chose d'excessif, en fait, en soi. Donc, oui, je rejoins totalement ça. Enfin, je sens... je sens un lien entre la violence, l'excès et la littérature, même si le texte ne va pas être forcément violent. Enfin, c'est pas forcément c'est pas forcément littéral en fait. Mais il y a toujours une impulsion, quelque chose dessous le texte qui est de l'ordre de l'excès et d'une certaine violence.
Et quels sont les dangers alors ?
Oula, les dangers de la littérature.
Victor parlait un peu d'une épreuve du feu, quelque part. Est-ce qu'on risque pas de se brûler complètement ?
Si, bien sûr. Je pense qu'il y a, comme dans tout, il faut essayer de si c'est possible, j'en sais rien, je suis pas sûre de pouvoir répondre à ça, mais de trouver un certain équilibre, si possible, je sais pas. Mais oui, bien sûr, ouais, il faut. Il y a des dangers, ouais.
Là-dessus, je pense qu'on peut vraiment dire que l'écriture, c'est une forme de pharmacone, de poison et de remède, et que, en fait, le danger, moi, je le vois de loin, hein. J'ai vraiment, pour le coup, je n'ai jamais écrit de fiction, j'en écrirai jamais, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, je pense que je suis vraiment lecteur, mais c'est parce que je suis lecteur, et notamment lecteur d'écrivains, qui ont été brûlés par cette pratique, et que je peux peut-être en témoigner, c'est que, en fait, ce que j'ai pu voir et m'apercevoir, c'est que quand on surinvestit, justement, cette relation à l'écriture, quand, en fait, on se fait violence pour écrire, ben, c'est peut-être là où on peut non pas être sauvé, ce serait une erreur de penser que la littérature sauve, mais en revanche on peut atteindre, et c'est très différent, une forme de rédemption, c'est-à-dire de rachat, une forme de salut, mais le salut qui viendrait après, après la damnation, après la brûlure. Donc c'est là, à mon sens, où on trouve un point de bascule qui n'est pas forcément souhaitable ou envisageable, du moins pour l'écrivain, mais qu'il est peut-être pour l'œuvre. Et la question, c'est est-ce qu'on place l'œuvre au-dessus de la vie ou non ? Et c'est une question à laquelle je me garderai bien de répondre.
Il y a aussi Cœur de Cobra de Nicolas Chemla dans votre ouvrage, hein, qui rejoint un peu Fuck It Kill de Lou Cirard chez Evry et son Quantica Benzine. chez 49 pages. Alors, est-ce qu'on devient ce qu'on lit? Comment on devient ce qu'on mange?
Alors oui, alors ce qui est très intéressant, et c'est un exercice que vraiment, je ne sais pas si quels auditeurs seraient capables de le faire, mais en tout cas, moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir à quel point les écrivains sont cohérents avec eux-mêmes. Et le texte de Nicolas Chemla et les textes de Lucira correspondent exactement aussi, enfin, trouvent une place, en tout cas, je trouve très touchante dans leur œuvre. Et Cœur de Cobra, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire donc, de Nicolas qui, en fait, fait une grande école de commerce parisienne, mais ne se sent pas à sa place. Et donc, en fait, décide de faire une année d'échange international au Vietnam, à l'autre bout du monde. Donc, il arrive là-bas. Alors, il parle de cette moiteur, comme cette tropicale qui l'envahit. Et d'un coup, en fait, il se retrouve à une série, un dîner, et on lui propose de manger le cœur vivant d'un cobra. Et ce qui est très intéressant, j'en parlais d'ailleurs, cette idée du point de bascule qui passe à posteriori, c'est que, en fait, c'est un plat traditionnel vietnamien, mais pour Nicolas, à ce moment-là de son existence, ce corps de cobra, ça symbolise quelque chose. Ça symbolise en fait justement cet excès, cette violence qu'il doit ingérer et pour ensuite peut-être expurger. Et donc je trouve que c'est un très très beau texte, en plus qui est très rock dans l'idée même. Et voilà, je vous invite, je vous encourage à le découvrir.
Sarah, est-ce que l'on devient ce que l'on écrit? À partir de quel moment l'œuvre prend le pas sur la vie et la remplace?
J'espère pas tout à fait quand même. Non, je crois beaucoup en la fiction aussi. Je crois pas à une confusion, enfin c'est très personnel, hein, mais je crois pas à une confusion totale entre ce qu'on écrit et ce qu'on est. Heureusement, parce que sinon ce serait très compliqué d'aller dans de la pure fiction ou de pousser en fait l'imaginaire beaucoup plus loin. Mais c'est sûr qu'il y a des choses étranges, il y a des synchronicités avec des intuitions aussi entre ce qu'on écrit et ce qu'on vit, mais c'est dur comme question.
Oui, c'est très dur. Mais j'ai pas dit que je posais des questions faciles, hein. Mais c'est pas une question piège. Non, mais on peut penser à des auteurs comme Pierre Guyotat par exemple, qui écrivent certains livres et après ils se disent bon, maintenant faut que ma vie soit à la hauteur de ce livre. Voilà, qui peut être un exemple. Rimbaud aurait pu dire la même chose.
Eh ben oui.
C'est surtout, mais vous faites bien de préciser qu'il n'y a pas de confusion entre l'auteur et son œuvre, sinon c'est la folie peut-être, s'il n'y a plus de séparation. Victor, vous en pensez quoi? Le rapport entre l'œuvre et... Pardon.
Pierre.
Non, Victor.
Ah, c'est...
Oui.
C'est vrai que c'est une question un peu compliquée. J'espère qu'on ne devient pas absolument ce que l'on écrit. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que l'écriture est plutôt un moyen de mettre à distance des choses, c'est-à-dire de les explorer, mais de manière plus apaisée, c'est-à-dire au fond, en effet, d'aller chercher la brûlure, mais une brûlure qui ne ferait pas de mal à d'autres personnes qu'à moi, et du coup d'aller chercher la rédemption après cette brûlure. Après, il est vrai que rapidement, l'écriture prend le dessus. Ce qui est plus compliqué, je pense que vivre avec quelqu'un qui écrit, par exemple, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Je pense que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, l'écriture, c'est comme un sujet d'angoisse. C'est un sujet d'obsession. C'est aussi un moment de solitude profonde. C'est très fragile quand on écrit parce qu'au fond, tout ce qu'on écrit pourrait ne jamais advenir. Tout ce qu'on écrit pourrait être un échec. Et ça, on est le seul, ou la seule, à en mesurer l'ampleur pour soi. Parce qu'on investit tellement dans une écriture que si c'était un échec, ce serait l'équivalent de la mort, au fond. Donc c'est très difficile. Cette distance-là, par rapport à son écriture, est très difficile. Il faut, je crois, s'en protéger parfois. Même si s'en protéger, c'est aussi peut-être manquer la possibilité d'aller au bout.
Et alors l'écriture, ça serait quand même être capable de payer le prix. Et ce prix, ça peut être la vie?
Oui, bien sûr.
Pierre?
Ben, je pense que c'est vrai que... alors, il y a un texte... Enfin, là, vous me tendez la perche pour parler de S'emprunt, de l'écriture ou la vie, qui correspond exactement à ce dont vous parlez, puisque S'emprunt, vous le savez peut-être, ça a été un résistant qui se trouve... a été... dans les camps et de concentration. Et en fait, d'ailleurs, il y a une scène moi qui m'a bouleversé, parce qu'en fait, donc il était étudiant à la Sorbonne, il va dans les camps et là il tombe sur Holbach, qui était son prof de philo à la Sorbonne, et Holbach est en train de mourir et il se retrouve à tenir la main de son prof de philo qui est en train de mourir de dysenterie, donc littéralement il se chie dessus. Et là, Semprin récite les vers de Baudelaire, au mort, il est temps de lever l'ancre, vieux capitaine, etc. Et le fait de manière très paradoxale, parce que en fait, il dit, bah voilà, j'ai cité du Baudelaire alors que mon prof de philo que j'aimais est en train de mourir. Ça m'a pas aidé, en même temps, j'ai eu besoin de le faire. Premier point. Deuxième point, Semprin, l'écriture ou la vie, l'écrit de mémoire en 96. Donc il l'écrit quasiment 40 ans après les événements, 50 ans. Et le truc, c'est, pourquoi est-ce qu'il écrit aussi tard? Parce qu'il dit que l'écriture, c'est une manière de se replonger dans ce qu'il a vécu. Et qu'il n'avait pas envie, en fait, de s'y replonger. Et l'écriture ou la vie, c'est presque un choix. C'est dire, voilà, maintenant je suis au seuil de ma vie, je suis âgé, je peux décider d'explorer, d'investir ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans, parce que maintenant j'ai plus rien à perdre. Mais je ne voulais pas le faire avant. Et je pense que c'est une manière quand même de répondre à votre question, de voir à quel point la littérature peut être une chose dangereuse aussi, mais aussi essentielle.
Sarah Bourg, est-ce que l'écriture, c'est, pour rejoindre ce que dit Pierre, est-ce que c'est un moyen de vivre deux fois?
Oui, j'ai l'impression, ouais. Je crois que c'est Marguerite Duras qui dit quelque chose de formidable, mais alors je vais très mal le dire, mais qu'elle explique dans une interview que parfois elle est comme jalouse de ce qu'elle écrit, comme si elle était jalouse d'une sorte de vie parallèle qui se déroulait dans l'écriture, et je trouve ça très fort, et ça résonne beaucoup, oui, avec... Oui, cette manière un peu folle de vouloir, de vouloir doubler en fait ce qu'on vit.
Merci beaucoup Sarah Bourg, merci beaucoup Pierre Polygone, merci beaucoup Victor Dumiau d'être venu pour parler de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle 49 pages. On peut annoncer quand même les trois prochains ouvrages qui sont Le nom de la bataille de Tom Buron. Il y a aussi Les amours rudimentaires d'Ève Guéra, qui vient d'avoir le concours
du premier roman.
Et puis un troisième qui s'appelle L'avenir de la littérature.
De Mikki Liukkonen, voilà. Un écrivain finlandais qui s'est suicidé à 33 ans. Donc c'est les trois prochains titres, ces trois titres qui explorent justement des points de bascule. Et puis si je peux aussi permettre de présenter rapidement ce qui arrive, on vient de lancer ce matin, et d'ailleurs c'est intéressant, peut-être vos auditeurs auront envie de participer, un petit concours sur Instagram qui est vraiment dans le thème de l'émission, puisqu'on propose en fait aux gens d'écrire en 490 signes, ça fait à peu près 5-6 phrases, le moment où leur vie a basculé, de le mettre en commentaire, sur l'application. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est de récompenser celui qui est le plus liké en offrant un an d'abonnement à 49 pages. Donc, si vous nous racontez la manière dont votre vie a basculé, on peut vous offrir 12 basculements.
Magnifique. 12 bascules. Merci beaucoup à René, qui assure la technique derrière la vitre.
Merci, René.
On va encore penser à Yves Tanret. Et on va aussi rappeler qu'on va bientôt fêter les 45 ans d'indépendance de Radio Aligre. Ce n'est pas rien. Et que Radio Aligre a toujours besoin de vous. Donc, si vous voulez faire des dons, vous allez sur le site et vous pouvez participer, vous pouvez vous engager pour la liberté de cette radio et d'autres radios. Merci beaucoup pour notre part. On se retrouve dans 15 jours.
Merci beaucoup, Frédéric.
Merci, Frédéric.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.